Et voici que nous retrouvons Emmanuel Roquette, qui n'est pas encore en vacances, lui, et qui vient nous parler littérature, avec un petit livre et un gros livre. Parlons d'abord du gros, mon cher Emmanuel. On va avoir le temps de lire, hein, c'est les vacances.
Oui, oui, on pourra, on a de quoi... On doit absolument mettre des choses dans le panier pour lire sur la plage. Alors là, je vous ai prévu un très gros livre. Vous savez, ces gros livres qu'on voit germer sur la plage et qui sont très, très importants. Il s'agit du livre de Peter Weiss. Je ne sais pas comment on prononce, Peter Weiss. L'esthétique de la résistance. Alors, c'est un livre qui est paru chez Klinksic et qui a été traduit par Eliane Kofold Messmer. Alors c'est un livre extrêmement particulier. Si j'ai désiré en parler, si possible en long, en large et en travers, c'est tout d'abord parce que c'est un livre qui est édité dans des conditions un petit peu particulières. C'est un livre qui est édité par Klinksic, qui est habituellement plutôt un éditeur d'essais même scientifiques, d'essais assez pointus, de philosophie pointue. Et donc c'est un livre qui risque de passer un petit peu inaperçu dans le paysage habituel de l'amateur de littérature. Donc c'est un peu difficile à voir dans tout ça, même si je sais qu'aujourd'hui même, je viens de l'apprendre, il y avait un article assez élogieux dans Le Monde des Livres qui va paraître, mais c'est toujours un petit peu dangereux ces types d'éditeurs qui sont spécialisés dans un domaine, très reconnu d'ailleurs, et qui décident pour des raisons qui sont tout à fait explicables dans ce cas-ci, mais d'aller vers un autre domaine. Ça risque, ben, malheureusement, de laisser le livre important dans ce domaine-là un petit peu inaperçu. Donc,
c'est vous voulez dire par là que les libraires, naturellement, ne le commanderont pas puisqu'il ne sera pas dans leur liste habituelle, que ce sera dans une liste d'un rayon... peut-être moins achalandé.
Oui, oui, clairement. Ça, c'est, disons que... Alors, c'est peut-être pas nécessairement le cas de ma librairie, parce que moi, c'est un éditeur auquel je fais confiance assez spontanément, parce que ce sont des domaines de philosophie un peu pointus, souvent, que moi-même, j'apprécie et que j'essaye de mettre en avant dans la librairie. Mais c'est vrai que c'est un éditeur qui, dans d'autres librairies, dans des librairies peut-être plus traditionnelles, plus généralistes, fera peur. Et donc, ils se diront, ah, c'est un roman, ouais, mais ça doit être un roman imbuvable, etc., trop complexe, je vais pas prendre. Et donc, il y a, oui, ce rapport au diffuseur, au distributeur, au représentant et à l'éditeur, qui doit être franchi dans ce cas-ci. D'autant que le titre lui-même, L'esthétique de la résistance, on pourrait croire que c'est un livre d'esthétique pure et dure, un essai pointu d'avant-garde sur l'esthétique. Ce que ça n'est pas. C'est un livre sur l'esthétique aussi, je m'en expliquerai, mais c'est pas que ça. Un autre élément qui me fait en parler, qui me dit que c'est important d'en parler, c'est que c'est une réédition. Et cela aussi chez les libraires, mais aussi chez les lecteurs, comme dans la presse, une réédition, on se dit, ouais, je ne vais pas en parler maintenant, on va parler de la nouveauté. On est quand même, mine de rien, dans ce rythme extrêmement mercantile où il faut d'abord parler des choses neuves, des nouveautés. Et donc, une réédition a toujours tendance à passer un petit peu passer au-delà de cet intérêt. Donc, c'est assez malheureux. Et puis, l'autre raison, c'est tout simplement parce que c'est un chef-d'œuvre et qu'un chef-d'œuvre... Vraiment, un chef-d'œuvre dans le plus pur sens du terme. Un chef-d'œuvre, il est difficile à lire dans le sens où il rénove lui-même les moyens que l'on utilise pour le lire. C'est quelque chose. Les moyens n'existent pas, en fait, pour le comprendre pleinement et entièrement. On est obligé de s'investir énormément dans ce que la presse, ce que des libraires, a fortiori avant l'en été, n'ont pas nécessairement le temps de faire, tout simplement. C'est même pas l'envie, mais c'est le temps qui leur manque. Et donc, toutes ces raisons-là font, je pense, qu'il est important d'en parler. Je rajoute une petite chose aussi, c'est que Klinksic est un éditeur d'essais qui reçoit aussi souvent des textes en provenance de thèses de doctorat, etc., qui ne relisent pas nécessairement de manière aussi précise que que d'un roman. Et donc, il y a quand même pas mal de petites fautes dans ce livre. Je ne vais pas dire que ça en tue complètement la lecture, certainement pas, c'est un livre phénoménal qu'il faut absolument lire, mais oui, il y a quand même des petites imperfections qui me font me rendre compte que c'est important d'en parler et de taper sur le clou.
Alors d'où vient-il ce livre? Vous nous dites que c'est une réédition, donc il date de quelle époque? D'une époque récente?
Alors oui, c'est un livre récent. En fait, Peter Weiss est un auteur très très connu en Allemagne. Alors il est mort en 1982. 1942, et il a achevé ce livre, L'esthétique de la résistance, juste avant de mourir. Donc c'est vraiment son grand œuvre qu'il a mis une dizaine d'années à écrire, et c'est juste après, je pense quelques semaines après avoir mis le point final à ce livre, qu'il est décédé. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est assez rare, c'est que Peter Weiss a eu le prix George Buchner, qui est un peu l'équivalent du Nobel en Allemagne, qui est donc un prix extrêmement important, et c'est le seul auteur allemand, enfin c'est le seul auteur de langue allemande, puisque le prix n'est attribué qu'à un auteur de langue allemande, enfin qui s'exprime en allemand du moins, c'est le seul auteur à avoir eu ce prix après sa mort, avec un autre auteur qui s'appelle Pasteur, qui est un auteur de poésie. C'est dire à quel point le jury du prix Buchner considérait ce livre comme un monument, ce qu'il est. Peter Weiss, c'est quelqu'un d'assez intéressant aussi. Son pédigré national est assez intéressant. J'ai fait quelques recherches, entre autres sur Wikipédia, mais aussi un peu ailleurs. En fait, il est né en Allemagne, il parle allemand, il a reçu le prix Buchner, qui est un prix allemand, mais il n'a jamais été allemand. C'est quelque chose d'assez particulier. Donc, il est né en Allemagne d'un père juif hongrois, d'une mère chrétienne. Je n'ai pas trouvé la nationalité de la mère. Je pense qu'elle était allemande, mais je n'en suis pas sûr. Et donc, dans un univers qui est assez ouvrier, pas très riche, mais pas non plus très pauvre, alors il va rester hongrois, donc il va prendre la nationalité de son père, sans jamais prendre la nationalité allemande. Il va vivre à Brême, puis à Berlin, puis à Londres, puis à Prague, puis à Stockholm, où il va vivre jusqu'à la fin de sa vie. Il va d'ailleurs prendre la nationalité suédoise, mais toujours en continuant à écrire en allemand. Donc c'est un être qui a vécu en Allemagne, qui est né en Allemagne, mais qui n'a jamais été allemand et qui n'a jamais désiré l'être. C'est un peu particulier comme cas. Alors, l'esthétique de la résistance, ben, c'est quoi ? Alors tout d'abord, c'est un immense pavé. Ça fait, je pense, 1100 ou 1200 pages écrites tout petit, sans beaucoup d'aération. Il n'y a pas beaucoup de traits de dialogue. Donc, c'est la première chose qu'on voit en l'ouvrant, c'est que diantre que cela est dense. Donc, c'est assez complexe. C'est bien un roman, je précise. Esthétique de la résistance de Peter Weiss, roman. C'est marqué en dessous sur la couverture. On ne peut pas se tromper. Et cela raconte l'histoire d'un jeu, donc d'un narrateur qui s'exprime en jeu, dont on ne dira jamais le nom, on ne sait pas qui c'est. On peut assez rapidement et raisonnablement penser qu'il y a des liens avec l'auteur lui-même. L'histoire, on parle beaucoup de Stockholm, etc. C'est pour ça qu'aller voir un petit peu la notice biographique de Peter Weiss peut aider à entrer dans le roman au départ. Je pense que c'est intéressant. Et donc ce jeu, on va le suivre de 1932 plus ou moins jusqu'après-guerre, une époque qu'on n'est pas certain de fixer vraiment, parce qu'il y a des éléments temporels qui sont mélangés dans le livre, donc on n'est pas certain de la date à laquelle se termine le livre, en tout cas.
Donc là, on est bien dans l'histoire de l'Allemagne, celle qui a marqué le XXe siècle, le nazisme en quelque
sorte. On est dans l'histoire plus que celle du nazisme, plus que celle de l'Allemagne, on est dans l'histoire même pas du fascisme, ni même de l'Allemagne ou l'Italie, mais dans l'histoire de l'antifascisme.
La résistance
au fascisme. Et donc on va traverser avec ce narrateur, de manière assez naturelle en fait, entre guillemets, malheureusement naturel, l'histoire de l'antifascisme. L'antifascisme qui commence en Allemagne juste avant l'accession d'Hitler au pouvoir, 1933, et puis après, avec ce jeu qui va s'exiler dans les combats de l'Espagne franquiste, enfin avant qu'elle ne devienne franquiste, donc la guerre civile espagnole. Une fois que la guerre civile espagnole, ces gens antifascistes sont virés d'Espagne et donc ils vont, pour l'immense majorité d'entre eux, d'ailleurs on le sait, c'est quelque chose qu'on sait de moins en moins, mais ils vont partir en France, où ils seront d'ailleurs bien souvent ostracisés eux-mêmes, donc c'est assez complexe.
Oui, placés dans des camps, notamment.
Des camps d'ailleurs qui eux-mêmes, alors ça c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le livre, des camps qui eux-mêmes vont d'ailleurs être déportés en Algérie, ce qu'on sait aussi assez peu. Bref, je referme la parenthèse. Après la France, certains vont repartir en Allemagne pour continuer à lutter là-bas, juste avant avant-guerre, c'est dire la situation, et d'autres, beaucoup d'autres, vont en fait partir, alors certains en ne s'en servant que comme une étape pour aller vers les États-Unis, mais la plupart vont y rester, c'est-à-dire en Scandinavie, Stockholm, Copenhague, etc., pour essayer de toujours avoir une certaine utilité dans ce combat contre le fascisme qui s'épand. Et puis alors, également, un contact très important avec la Russie, puisque les combats antifascistes sont tous plus ou moins teintés, effectivement, de communisme que le fascisme combat de manière extrêmement virulente très tôt. Donc, on va suivre ce personnage, mais aussi énormément d'autres. C'est-à-dire que ce jeu va parfois disparaître pour nous parler... de personnages alors qui sont fictifs mais qui sont très très souvent réels. Alors on va parler de personnages comme par exemple Rosa Luxembourg auquel on va faire allusion avant les temps que l'on décrit. On va parler de gens comme Trotsky, comme Lénine. On va parler de gens très importants. On va en parler même beaucoup de quelqu'un comme Bertolt Brecht par exemple, de Thomas Mann qui sont exilés en Scandinavie. Et donc on va mêler à l'histoire de ce jeu qui lui-même mêle l'histoire personnelle de l'auteur avec la fiction, avec d'autres éléments fictionnels, d'autres éléments réels, mais qui toujours ont pour trait fondamentalement la lutte contre le fascisme en Allemagne, dans l'Europe et de manière globale dans le monde.
C'est le roman d'un témoignage ?
Alors, il y a une réalité testimoniale, mais ce n'est pas un roman testimonial, c'est bien plus que ça. Alors, comment le décrire ? C'est très complexe, parce que je le dis, c'est vraiment un livre qui change la manière qu'on a de lire, clairement. Ça peut paraître un peu gros, ce que je dis. Pourtant, il faut savoir que c'est un roman qu'on compare. D'ailleurs, le quatrième de couverture y fait référence. C'est un roman qu'on compare à l'œuvre de Proust, à l'œuvre de Joyce. Donc, c'est vraiment une œuvre littéraire extrêmement fondamentale. Je pense que peut-être une des meilleures manières de décrire le livre, c'est d'en sortir un élément et de vous l'expliquer peut-être de manière un peu plus large. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hôtel de Pergame ? L'hôtel de Pergame, c'est un hôtel qui a été créé, sculpté dans le marbre, je pense, au IIe siècle avant notre ère, pour célébrer la victoire des Olympiens sur les Chtoniens, donc les dieux du ciel sur les dieux des enfers, les dieux du bas, en fait. Et c'est un hôtel qui avait été commandé par des Attalides, qui était un royaume de l'époque, près de la ville de Pergame, pour célébrer eux-mêmes la victoire contre les barbares. Donc, ils ont commandé cet immense hôtel, ce gigantesque hôtel, à des sculpteurs. Les sculpteurs, à l'époque, c'était quoi ? C'était des esclaves. Donc, les esclaves ont sculpté cet hôtel absolument sublime, absolument merveilleux, entre guillemets, célébrant la victoire des vainqueurs. Hein. C'est un peu une tautologie, mais c'est bien ce que ça veut dire. Et puis, cet hôtel a disparu. C'est-à-dire qu'il s'est fait ensevelir sous des tremblements de terre, sous des intempéries, etc., jusque finalement à la première moitié du 19e siècle. Qui va redécouvrir cela ? Ce sont des archéologues allemands. Les archéologues allemands, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont eux-mêmes utiliser une main-d'œuvre locale, sous-payée, pour construire des routes jusqu'à cette localité près de Pergame, où se trouve cet hôtel, pour le sortir de terre, le ramener en partie du moins en Allemagne, à Berlin, et tout cela en magouillant avec les Ottomans de l'époque, en disant « voilà, on ne va pas tout prendre », mais finalement, ils en ont volé une partie qu'ils dissimulaient dans des bateaux pour les ramener à Berlin. À Berlin, ils vont l'exposer. Ils vont l'exposer où ? Ils vont l'exposer dans le musée, je ne sais plus comment il s'appelait, dans le musée de Berlin de l'époque, jusqu'au début de la guerre 40. En 40, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vouloir le dissimuler pour éviter... En 40, hein, donc c'est pas à la fin de la guerre, c'est déjà en 40, ils vont le dissimuler dans les locaux, alors là ça ne s'invente pas, de la Deutsche Bank, de la Reichsbank en fait. Et c'est après la guerre que cet hôtel de Pergame va être, le local de la Reichsbank se trouve du côté est de Berlin, et donc il va être pris par les soviétiques et il va être exposé en grande pompe dans un musée qui lui sera consacré. L'auteur, c'est un peu long ce que je dis, mais l'auteur fait commencer son livre par cet élément-là, c'est-à-dire qu'il montre ce jeu devant cet hôtel absolument magnifique. Et il se pose la question de la résistance en voyant cela. Et c'est ça que, quelque part, essaye de faire Peter Weiss, c'est de montrer que dans un objet comme cet autel de Pergame, qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ, demeure effectivement l'image de surface, qui est l'image d'une victoire des Attalides contre les barbares, des Olympiens contre les Chtoniens, mais demeure aussi, quelque part, les gestes de ceux que l'on a sous-payé ou dont on a brigué la liberté pour le construire. Et que ces gestes ne pourront être reconnus que par un résistant lui-même, que par quelqu'un qui se retrouve de manière omnisciente, de manière consciente ou non, sous la même emprise que ceux qui ont fabriqué réellement cette œuvre d'art. Et donc, à travers cela, ce qu'il montre, c'est simple, c'est que l'esthétique est résistance. La résistance est esthétique. Il n'y a pas de mauvais art qui serait un acte résistant et un bon art qui serait un acte non résistant ou pas, peu importe. Ce qu'il y a, c'est qu'il essaye de montrer la consubstantialité de l'esthétique et de l'art. Les deux sont absolument et radicalement liés, toujours. Et donc, à travers cela, en montrant finalement l'acte pendant 1200 pages, les actes de résistance d'antifascistes des années 32 jusqu'après-guerre, ce qu'il fait, c'est acte de résistance lui-même, bien entendu, parce que l'artiste, c'est son job, c'est d'être résistant, mais aussi il fait acte esthétique. Les deux viennent s'imbriquer l'un dans l'autre. Et en faisant ça, il est à la fois prodigue en matière de résistance, il assied un acte résistant neuf, mais aussi un acte formel neuf. Les deux ne peuvent pas exister sans être liés.
Mais cet acte de résistance, d'un point de vue littéraire, il s'incarne dans une esthétique particulière, une esthétique forte, ou bien c'est un roman traditionnel du 19e ?
Oh, non, c'est pas du tout un roman traditionnel. C'est même pas un roman traditionnel du début du 20e à la Thomas Mann. Ça demande une grande concentration de lecture. Déjà, il y a une absence des dialogues. On est vraiment dans un acte narratif presque continu. Donc, il y a très peu de dialogues, ce qui demande déjà une grande concentration. Il y a beaucoup de références aussi à des éléments qu'on ne maîtrise plus nécessairement. On est parfois perdu dans le livre au travers de ces références. Ce qui est volontaire, hein, c'est très clairement volontaire, de perdre aussi le lecteur comme le résistant antifasciste est perdu dans les raies de la domination qui s'impose à lui et contre laquelle il essaie de réagir. Le lecteur est posé aussi lui-même dans ces éléments-là. Comme il essaye de décrire une situation de résistance, il essaye aussi de placer le lecteur dans une situation de résistance. Donc on est vraiment dans un acte formel qui est très neuf. Je peux peut-être lire un extrait pour vous montrer, voilà, ces longues phrases un peu proustiennes aussi, c'est vrai, hein, donc la référence à Proust n'est pas innocente, mais dans lesquelles justement il essaye toujours de conjoindre à la fois, alors ça c'est un peu la tarte à la crème, hein, de la critique littéraire, de conjoindre le fond et la forme, mais ici vraiment, même si c'est tarte à la crème de le dire, il essaie, c'est vraiment ce qu'il essaye de faire et ce qu'il réussit magnifiquement à faire. Je commence. Tout en courant de la gare du métro Schwarzopstrasse par la chaussée Strasse jusqu'à la Pluckstrasse, tandis que hurlaient les sirènes et que me hélaient les responsables des blocs d'immeubles pour me forcer à descendre dans l'abri le plus proche, poursuivi par les sifflets à roulettes, une question me tourmentait. Et tandis que les autos et les omnibus s'arrêtaient, que des gens se pressaient et disparaissaient dans les trous indiqués par les flèches blanches et que j'accélérais encore au premier tournant pour arriver à la maison, cette question attendait une réponse. Et si toute cette activité avec les livres et les tableaux n'avait pas été en fin de compte une simple fuite loin des problèmes pratiques, accablants, la même fuite panique éperdue que cette course sur le pavé brillant de pluie, jusqu'au porche à deux battants avec les montants sculptés, puis à travers la cour jusqu'au logement froid et vide en haut de l'escalier. Et il me suffit alors de voir le linoléum aux lignes râpées et aux endroits endommagés où apparaissaient les aspérités du plancher, avec ses trajets tracés par les pas en direction du fourneau, de l'évier, de la porte, de la pièce attenante, puis de jeter un coup d'œil dans la chambre où les pieds du lit avaient laissé des creux dans le revêtement du sol, pour ressentir une fois de plus ce qu'était la pauvreté, et admettre que ce à quoi nous avions consacré nos efforts durant tant de nuits de veille, et en éprouvant le vertige, n'était de tout même pas là pour nous. Mais ensuite, debout devant la fenêtre ouverte, tout au-dessus de l'enchevêtrement des rails, de la forêt de poteaux électriques sur le terrain devant la gare de Stettin, commença la résistance, née de mon désespoir, et je me dis à ce moment même, dans le vrombissement des escadres en manœuvre, que se préoccuper des richesses de la pensée, activité en apparence absurde dans notre pauvreté, constituait notre part du combat pour la survie et que les carrés de Giotto à Assise et Padoue et leur aridité stylisée étaient tout à fait à leur place dans nos pièces enduites de gris vert.
Un peu, vous avez eu nos vies, notre vie matérielle, mais vous n'aurez pas notre esprit.
Il y a de ça, tout à fait. Il y a aussi cette question fondamentale et toujours contemporaine, en fait, de l'accès des classes. C'est quelque chose qui est revendiqué par Peter Weiss, ce mot de classe.
À l'époque, c'était pas encore un gros mot.
C'était pas encore un gros mot. Ça l'est devenu pour certains. Ça revient pour d'autres. Donc voilà, mais ça a toujours été le cas. Donc cette idée de l'accès des classes les plus pauvres, les plus précarisées à la culture. Alors je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de l'éditeur, mais je pense qu'effectivement, par l'anti-intellectualisme ambiant, qui touche aussi finalement ce rapport que l'on peut avoir entre la culture et les classes défavorisées, entre guillemets, je pense que c'est très très important de le remettre au goût du jour. Parce que c'est vraiment, je veux dire, le passage que je viens de vous citer, ce n'est pas celui qui ouvre le livre, mais il se trouve vraiment au tout début. On voit que finalement, là je pense que c'est un peu la mise en scène de la question qui a fait germer le livre dans l'esprit de Peter Weiss. Est-ce que, comme lui finalement, issu d'un milieu pas très favorisé, pas extrêmement défavorisé non plus, qu'est-ce que ça veut dire mon attrait, moi, en tant que précarisé? Que veut dire cet attrait que moi j'éprouve pour des choses que quelque part on ne m'interdit pas nécessairement, mais dont on me dit bah, « Attends, t'intéresses pas à ça, t'as autre chose à foutre, quoi. Il y a d'autres actes à poser d'abord. » Et surtout de se dire « Il faut d'abord résister, il faut d'abord brandir le poing, il faut d'abord lâcher des bombes. » Ouais, pas sûr. Je pense plutôt que l'acte de résistance, il est dans la question que je me pose de cet accès à l'art. Puisque finalement, c'est toujours aussi un acte de vainqueur qui utilise des dominés, etc. Ce fameux hôtel de Pergame.
Qu'est-ce qu'on sait de Peter Weiss et de son engagement politique ?
Alors, je ne me suis pas énormément renseigné sur la question. Parce que j'ai voulu justement rester un peu dans... pas dans le mystère du livre ou dans la beauté du livre, hein, c'est pas une volonté éthérée de rester là-dedans. C'était quelqu'un d'extrêmement engagé à gauche, hein. Ça c'est évident. C'est quelqu'un aussi qui a eu pas mal d'actions polémiques. Ce livre a créé aussi une certaine polémique. Bon, je pense que le fait qu'il soit édité en Allemagne en 82, la réunification a beaucoup joué, puisque c'est aussi un livre sur l'antifascisme, mais c'est aussi un livre... c'est pas le livre de l'antifascisme, c'est le livre de la résistance. C'est important cette nuance parce que l'antifascisme, il est professé, il est mené fondamentalement par des communistes à cette époque-là. Il est incarné en tout cas très très fort par cela, mais des communistes qui eux-mêmes vont devoir se positionner par rapport à un parti, par rapport au Comintern, et pas toujours de manière très tendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc la résistance, c'est résister contre l'antifascisme, mais c'est aussi résister contre ceux pour qui l'antifascisme est moins important que l'idéologie par laquelle ils veulent remplacer ce fascisme. Et donc, ce n'est pas un roman pro-communiste ou communautariste, etc. C'est vraiment un livre de la résistance et un livre de l'esthétique, les deux étant presque des synonymes, en fait, dans le livre.
Cette liberté de l'individu, puisque c'est ça dont il s'agit, s'il résiste à la fois au modèle dominant du fascisme, mais à ce par quoi on veut le remplacer, le communisme, ça peut résonner aujourd'hui, vraiment.
Clairement, oui. Mais, et aussi, et c'est pour ça que c'est un livre qui est complexe. Quand je me disais moi-même, en écoutant votre question, en parlant d'individu, en disant que moi-même, enfin, ce n'était pas un roman du communautarisme, c'est quand même un roman de la communauté. C'est-à-dire que c'est aussi le roman de ce qui nous lie par-delà nos combats, par-delà même les idées que l'on peut professer à certains moments, par-delà même les idéologies que l'on peut venir rejoindre. pour être utile à un combat qui les subsume quelque part. Donc, c'est un roman extrêmement vaste. C'est un roman de la résistance, c'est un roman de l'esthétique, c'est une œuvre d'art pure, en fait, absolument pure. C'est aussi, avant tout, une énorme expérience de lecture. Là, je viens peut-être de le théoriser, mais il y a des moments d'une beauté absolument extraordinaire. Quand on nous parle de Brecht, par exemple, des conflits intellectuels qui sont les siens à cette époque, justement, entre cette idéologie qu'on l'oblige presque à choisir et celle qu'il combat depuis toujours, tous les tourments, en fait, qui peuvent émailler la pensée de quelqu'un dans sa lutte, c'est fascinant.
Alors, au risque de me répéter, est-ce que le style est à la hauteur du propos ?
Oui, oui. Alors, c'est un livre... Je ne sais pas si je devrais dire ça, parce que c'est un livre allemand. Voilà. Donc il y a quelque chose de ça. Ceux qui lisent beaucoup de littérature allemande ou qui lisent beaucoup de littérature et aussi de l'allemand sauront un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est une beauté qui se développe dans la longueur. C'est une beauté qu'on peut considérer peut-être un peu comme systémique. C'est-à-dire que ce n'est pas une langue ou une écriture qu'on va goûter sur un extrait très court, mais c'est quelque chose qu'on va goûter dans sa construction, en fait. C'est quelque chose, oui, c'est souvent quelque chose que l'on trouve un peu dans les œuvres allemandes, qu'on ne trouve pas nécessairement dans d'autres.
C'est un livre qui fait près de 1200 pages, vous nous l'avez dit. Est-ce qu'on peut le prendre, l'abandonner, le reprendre, ou alors on est obligé de lire ça dans un seul souffle ?
Un seul souffle, quand même pas, parce que ça fait quand même... Il faut être plutôt bon en apnée pour lire 1900 pages, ça.
On va avoir 3 semaines de vacances au moins devant soi, c'est ça sûr.
Non, mais c'est un livre, voilà, qui... Non, il y a des chapitres, donc on peut s'arrêter au chapitre. Ceci dit, c'est un livre... Voilà, il y a très peu de paragraphes aussi. Hein, je pense qu'il n'y en a quasiment pas au sein des chapitres. Donc déjà, de manière pratique, pour s'arrêter et se souvenir de l'endroit où elle arrête, c'est pas compliqué, pas facile, faudrait souligner. C'est un livre à ne pas quitter trop souvent, je pense. Et puis c'est un livre aussi qu'on n'a pas envie de quitter trop souvent, parce qu'une fois qu'on a compris ce petit truc esthétique, cette beauté du livre, on a envie d'une chose, c'est de s'y vautrer, en fait.
Vous vouliez en ajouter un autre pour la route, mon cher Emmanuel ?
Oui, alors en 2-3 mots, parce que je pense de toute façon que c'est un livre sur lequel on ne peut pas dire grand-chose, on ne doit pas dévoiler grand-chose. C'est un hasard, en fait. Il y a donc la réédition de ce chef-d'œuvre de 1982, et puis il y a la réédition d'un autre chef-d'œuvre, très peu connu aussi, qui lui date de 1913, c'est un roman de Sergueï Essénine, traduit par Charles Imbert aux éditions Hérolimite, et qui s'appelle La Ravine. Alors, en 2-3 mots, La Ravine, c'est quoi ? Ça raconte l'histoire d'un jeune homme de 26 ans qui s'appelle Kostia, qui va déménager, on ne sait pas trop pourquoi, et qui va arriver au village de La Ravine. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il va y vivre une relation d'amitié, il va y avoir un travail, il va y tomber amoureux, et c'est presque tout, en fait. C'est un livre qui est assez court, lui, qui peut être arrêté pendant la lecture, mais qu'on n'a pas envie d'arrêter non plus. C'est le livre d'un poète qui s'est suicidé à l'âge de 30 et qui a écrit ce livre à l'âge de 18 ans. Et c'est un livre absolument prodigieux. Chaque phrase est presque taillée dans une poésie absolument née d'ailleurs. C'est absolument prodigieux. Et en même temps, c'est un roman qui ne se lâche pas. Donc ça, il y a quelque chose d'extrêmement addictif. C'est un roman presque des contraires, de la conjonction des contraires. Donc c'est un roman fait de phrases extraordinairement poétique, mais en même temps avec une narration très efficace. C'est des phrases extrêmement poétiques. Ce sont des phrases extrêmement poétiques, mais dont aucune finalement ne peut être détachée. Donc c'est, on peut pas. D'ailleurs, pour le quatrième de couverture, c'est juste une phrase, mais c'est la seule phrase qu'en lisant le livre, toute personne pourrait détacher. Il n'y en a pas d'autres, en fait, donc c'est assez étrange. Et c'est aussi un roman qui est particulier, puisque le héros, Kostia, paraît mené, finalement, par son destin, par la fatalité. Il y a quelque chose qui pèse sur ses épaules, ce destin, cette fatalité. Et en même temps, à la fin du livre, vous avez vraiment l'impression, et cette impression est communément partagée par tous ceux qui l'ont lu, vous avez juste l'impression d'avoir lu l'un des plus beaux livres sur la liberté. Donc c'est un merveilleux roman des contraires que je ne saurais que conseiller.
Vous nous rappelez les deux titres ?
Alors, il s'agit de La Ravine de Sergueï Essénine chez Héros Limite et L'esthétique de la résistance de Peter Weiss chez Klinksy.
Merci Emmanuel.
Merci Alain.